Vous vous apprêtez à écouter un extrait du prochain épisode de Dans la boîte à gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles, mais pas que. Toi, 95, ça correspond, je crois, à ta lutte avec Jordi Arcarons.
Ouais.
Et je crois que tu as eu des petits coups de Trafalgar, justement. En tout cas, tu l'as un peu piégé parce que, je schématise pour les auditeurs, mais il se mettait dans ta trace, donc ouais. Il te suivait parce que tu étais très bon en nav, lui, beaucoup moins bon en navigation. Et à un moment, tu l'as un peu eu à son propre jeu, non?
Oui. Alors déjà, l'histoire avec Arcarons avait commencé un peu avant, en 93, l'année où je gagne. En fait, il me suivait tout le temps, c'est-à-dire que il prenait jamais d'initiative de navigation. Donc souvent, je faisais le travail de navigation parce que c'est quand même plus compliqué d'ouvrir la route, lire le roadbook, que de suivre quelqu'un. Et en 93, volontairement, je me suis perdu avec lui dans ma roue, mais vraiment volontairement. Et j'ai simulé une panne technique en lui disant « je viens de casser mon moteur, je suis désolé, la suite c'est par là, enfin la route elle est par là » et lui il est parti, hein, pleine balle. Et en fait j'ai fait demi-tour et je suis revenu chercher la bonne piste que j'avais laissée volontairement. Et ce jour-là, lui il a perdu 2 ou 3 heures et moi j'ai gagné le Dakar 93 super facilement. Donc il y a quand même eu des petites histoires avec Jordi Arcarons. Et ça datait même de bien plus longtemps que ça. À l'époque où je roulais Husqvarna, on fait juste une petite anecdote, je fais la Barra espagnole, je suis en tête et je tombe et je suis allongé dans un champ en train de me plaindre du vent, du bas-ventre. Et lui arrive, il me voit allongé par terre et au lieu de venir me secourir, il me regarde et moi, il s'en va. Donc, depuis cette première course avec Jordi Arcarons, malheureusement, il y avait un petit arriéré.
Ça l'a ressenti.
Ouais. Et donc, et ce jour-là, quand je tombe, quand il s'arrête pas, alors que je suis quand même bien blessé, c'est la plus grave blessure que j'ai toute ma carrière. J'ai le rein fissuré, l'urètre arraché, j'ai une hémorragie interne et ça se finit avec le ventre ouvert sur 30 centimètres. Donc, c'était pas du chichi ou quoi que ce soit. Et lui, s'est pas arrêté.
Ouais, tu l'as vécu comme tout simplement une non-assistance à personne en danger.
C'est ça. Ouais. Et quelques minutes après, il y a Gilles Lallet qui arrive. Ouais. Lui me voit en mauvais état, il s'arrête et il me demande ce qu'il peut faire pour moi. Et j'arrive à me relever, à continuer quand même. Enfin, toujours est-il que avec Jordi Arcarons, quand on avait 20, 21 ans, avant que je sois chez Yamaha, il y avait déjà quelque chose qui passait moyen. Donc après, on se retrouve au Dakar et en fait, on l'appelle ça les suceurs de roues. C'est-à-dire ceux qui font pas la navigation et qui suivent l'autre de devant, c'est des suceurs de roues. Et donc voilà. Et en 95, pour revenir en 95, je suis effectivement, je crois, en tête du rallye. Et je viens de tomber. Et là, je tords un repose-pied qui est vraiment en mauvais état. Et on arrive à un ravitaillement essence. Et là, normalement, assistance extérieure est complètement interdite. C'est-à-dire que même si j'arrive au ravitaillement essence, on avait une neutralisation de 15 minutes. Donc, je fais le plein d'essence et il me reste 5 ou 10 minutes pour éventuellement redresser mon repose-pied. Mais théoriquement, tu n'as pas le droit de demander d'outils à l'extérieur à quelqu'un. Et moi, je ne connais pas le règlement. Je n'ai jamais appris les règlements, jamais lu les règlements. Ça vient de l'école.
Ton reste de branleur, ça.
C'est mon reste de branleur, voilà. Et donc, je mens au mec qui fait le ravitaillement essence. Est-ce que tu as un marteau? Il me dit ouais. Donc, il me donne un marteau. Et puis, il y a des télévisions qui sont là un peu autour. Et puis, en fait, je fais ça comme je fais un peu un peu d'action, un peu d'animation au ravitaillement essence. Je tape avec le marteau, je redresse le repose-pied, tanana. Hein. Et dans la fin de l'étape, la moto, elle était vraiment roulable sans aucun problème. Hein. Et à la fin de l'étape, je m'en rappelle, j'avais vu sur les cartes qu'on pouvait faire une petite coupe. Et lui, il est reparti devant moi, il fait la piste normale, moi je coupe un petit peu et j'arrive le premier à la fin. Et là, je suis provocateur parce que je dis, comme d'habitude, Arcarons, il s'est perdu, alors que c'est pas lui qui s'est perdu, c'est moi qui fais une coupe. Donc, et je suis un peu provocateur, pas très sympa. Et là, lui, du coup, il porte réclamation parce que j'ai utilisé un marteau. Et là, il est dans ses droits parce que le règlement est clair, interdit d'avoir des outils qui viennent de l'extérieur. Si tu dois intervenir sur ta moto, c'est avec des outils que tu as toi-même sur la moto. On a des petites sacoches. Et donc là, il a raison, il porte réclamation et je prends 15 ou 20 minutes de pénalité. Et donc, du coup, de la première place, je me retrouve deuxième. Et là, ça me met quand même un coup au moral. Je me dis, merde, les 15 minutes que j'ai pris d'avance, c'était pas si facile que ça à les prendre. Maintenant, le boulot est tout à refaire. Donc, pendant 2-3 jours, je suis un peu abattu. Et puis finalement, il y a une étape qui est hyper technique dans la dans Forêt Noire, c'est-à-dire plus dans le désert du Ténéré par là, mais plus proche de Dakar où c'est vraiment très technique dans la forêt. Et là, je décide ce jour-là de prendre des risques et d'attaquer fort. Et j'arrive à lui reprendre 25 minutes en une seule journée, à repasser en tête et finalement gagner. Mais donc, il y a eu un petit peu un peu de tension avec Jordi Arcaron sur cette édition. Mais c'était de sa part. Je l'ai quand même roulé un peu quelques fois. Je lui ai fait des crasses quand même qui étaient pas forcément très très correctes. Donc je comprends sa réaction de porter réclamation.
Mais je pense au règlement aussi. Tu m'avais expliqué que Jean-Claude Olivier t'avait toujours, en tout cas, il avait cette culture de gagner sur le terrain et pas sur tapis vert.
Ouais.
Parce que ça me fait penser à Gaston Rayet. Je crois qu'il avait été avéré que Gaston Rayet avait triché sur l'édition. Ah. 88 peut-être.
Non, je pense que c'est quand Jean-Claude Olivier fait deuxième.
Ouais, c'est ça.
Je crois que c'est 86. Hein.
86, ok.
Ouais, c'est pas que c'est 88, ouais, en tout cas.
Mais et il avait dit non, je même c'est si ça. C'est avéré, je le fais pas parce que ça. Je veux une victoire à la loyale.
C'est ça. C'était l'esprit de Jean-Claude Olivier. On gagne pas sur le tapis vert. Et effectivement, Gaston Rayet avait triché. Je pense qu'il avait changé de moto ou changé de cadre alors que c'était interdit. Tout le monde le savait, mais ça n'avait pas été pris sur le champ. Et donc, s'il y avait eu une réclamation, probablement, il aurait pu être disqualifié. Gaston Rayet et Jean-Claude Olivier gagnaient le Dakar, mais Jean-Claude n'a pas voulu gagner dans ces conditions-là, parce qu'à la fin, le parcours, il l'a fait. Il a roulé vite, Gaston Rayet avait roulé vite, il avait fait la course en entier. C'était juste un peu magouillé avec la moto, mais il ne voulait pas gagner de cette façon Jean-Claude Olivier. Mmh. Donc voilà.
Pour plus de contenu exclusif sur les coulisses du podcast, suivez-nous sur Instagram @dansla-boîte-à-gants. Vous retrouverez aussi la version filmée de vos épisodes préférés sur YouTube.